Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
L'automne est une valeur sûre quand il s'agit de retrouver les salons littéraires, les prix, les nouvelles parutions, le défilé promotionnel des écrivains, les sujets de l'année 2020, place à la Covid-19, au retour aux sources, à la décroissance, aux croissances vertes, le réchauffement climatique, la 5G, la famille, le jardinage, le bien-être, la fuite inexorable du temps. L'année est virale pour les auteurs. Dans tout ça, les enfants continuent toujours de grandir. Et comment éduquer cette belle marmaille? Par le livre, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mot de passe sur RTVFM 102.2. Parce que, par le mot, bien des messages passent. Au programme de cette nouvelle saison 2020-2021, des interviews au détour d'une rencontre, la chronique cas d'école qui épluche le programme de l'éducation nationale, le livre du mois et l'actualité. Et pour ouvrir le mot de passe de cette première de la saison, la littérature jeunesse. Qui sont ces lecteurs et ces écrivains que l'on catalogue dans les œuvres pour la jeunesse? Dans les lecteurs, il y a vous et moi. Qui n'a pas lu du Jules Verne, de la Comtesse de Ségur, du Tolkien, du Roald Dahl, de l'Andersen, du Daniel Pennac? On y est tous tombés dedans. Et si ce n'est pas encore fait, laissez-vous glisser dans ces écritures fluides et ces intrépides histoires qui nous font grandir. Et pour vous y encourager, j'ai rencontré pour vous un auteur contemporain de littérature dite jeunesse. Et ça n'est pas réducteur, c'est juste un autre exercice et peut-être un peu moins prétentieux, donc tellement mieux. C'est au Salon du Livre de Roussillon que j'ai rencontré un auteur bien de chez nous, R.J. H. Lascols, avec son premier tome, Les Voyages de Petit Maxime. Non, Les Voyages de Maxime Petit. On est en extérieur, au bord du rocher, avec un bruit de foire.
Au détour d'une rencontre.
Comme prévu, on est donc au livre en fait, dans le village de Roussillon, sur ce village ocré, perché dans le Luberon. Et on retrouve un auteur dont je n'ai pas traité les thématiques, c'est-à-dire le livre jeunesse. Et aujourd'hui, c'est R.J. Lascols. Qui est R.J. H. Lascols? Donc voilà, déjà j'ai écorné les trois syllabes. Il faut dire que trois syllabes, c'est quand même beaucoup. Donc R.J. H. Lascols, c'est qui?
Eh bien, c'est un musicien avant tout, un musicien-chanteur, intermittent du spectacle, qui s'est lancé dans l'écriture tardivement. Parce qu'en fait, j'adore les écrivains, je les admire, les auteurs. Et je me suis dit, j'avais envie d'écrire depuis longtemps, j'écris des chansons. Mais un roman, pour moi, c'était une élite en fait. Et je ne pensais pas en faire partie. Et depuis que j'ai commencé à écrire et que j'ai eu le retour des lecteurs qui adorent, je me dis finalement, j'en fais partie. Et ce n'est pas autant une élite que ça, puisque j'ai réussi à le faire. Ou alors j'en fais partie. Et alors là, pour moi, c'est la consécration.
On peut dire que c'est la consécration, puisque votre maison d'édition, c'est qui?
C'est Marathon Édition, une maison d'édition marseillaise. Elle est jeune, elle date de 2017, mais elle commence à avoir le vent en poupe et elle a des romans qui commencent à plaire à tout le monde.
Le vôtre, sûrement. Donc, le vôtre, vous me dites, si je me trompe, c'est Les Voyages de Maxime Petit. Et là, aujourd'hui, c'est le tome 1 que vous nous présentez, ce qui veut dire qu'il y a un tome 2. Et c'est Les Bulles de Savon. C'est qui va lire ça, alors?
Alors, en fait, les parents qui l'achètent pour les enfants, on peut le lire en fait à partir de 9 ans si on sait lire, si on sait bien lire sans images. Mais les parents qui l'achètent pour les enfants le lisent et l'adorent, me font des retours incroyables. Les grands-parents qui l'achètent pour les enfants, les petits-enfants l'adorent aussi. En fait, c'est vraiment tout public. C'est un roman d'aventure tout public, légèrement fantastique.
Alors, on peut dire que donc c'est du livre jeunesse. Et pour l'avoir commencé il n'y a pas longtemps, étant grand-mère aussi, effectivement, j'ai commencé à le raconter un petit peu à ma petite-fille. Alors, on a dit qu'on ne divulgâcherait rien, hein, pour ne pas dire spoiler, parce que j'aime bien m'attacher à la langue française. C'est qui ce petit Maxime?
Mais en fait, Maxime, c'est un enfant de 13 ans et demi, un ado, qui adore les études, qui est premier de sa classe, qui adore lire, mais qui est assez solitaire. Il a une vie un peu monotone, un peu routinière, mais ça lui convient finalement. Et il a un copain qui s'appelle Jacob, qui lui est un peu plus le pitre de la classe, pas cancre parce qu'il est dans le milieu, il est moyen. Et il est assez bagarreur, il défend souvent Maxime justement, qui se fait embêter parce qu'il est timide. Et voilà, Maxime, c'est un enfant introverti, très timide.
Vous avez dit un peu fantastique. Moi, je dirais plutôt que c'est du merveilleux plutôt que de fantastique, parce que dans une de mes précédentes émissions, on a une enseignante de français qui nous a bien fait la différence entre le merveilleux, le fantastique et le fantasy. Et là, on est quand même dans le monde réel, sauf que va se rajouter quelques éléments tout à fait anormaux, mais en même temps qui pourraient complètement coller à notre réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt du merveilleux ?
C'est exactement ça, c'est super bien défini, parce que c'est exactement ça en fait, c'est pas fantastique avec des dragons, tout ça, ça pourrait vraiment exister, ça pourrait se passer, un ado pourrait vivre ça, même un adulte finalement, et c'est juste une petite part que moi j'appelle fantastique, mais de merveilleux en fait.
Vous dites quand même qu'il a une vie monotone, en même temps il vit quand même dans un endroit qui a l'air sympa, on est quand même dans un camping un peu haut de gamme, où on a des parents qui travaillent, alors je ne dis pas à tout, hein, qui travaillent et qui sont fort occupés, qui n'ont qu'un enfant, qui vit quand même dans une caravane qui est une cabane dans laquelle il peut être totalement en autonomie. Alors c'est vrai qu'il est un peu solitaire, mais en même temps il communique avec des écureuils, il est quand même à la campagne dans les sous-bois, à Saint-Raphaël, ça a l'air bien charmant, ça sent l'épine de pin. Est-ce que, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez à dessein un objectif pédagogique quand vous écrivez ce genre de roman ?
Ce roman, en fait, moi, à la base, j'ai écrit un roman d'aventure pour tout le monde, comme moi, j'aurais eu envie d'en lire un. Et puis après, c'est vrai que j'ai rajouté quelques petites touches pédagogiques, mais qui apprennent des choses autant aux enfants qu'aux adultes. Mais maintenant, avec du recul et avec les avis des lecteurs, je m'aperçois que c'est un très bon support pédagogique, en fait.
Oui, c'est la formatrice que vous parlez. Oui, j'ai senti un petit peu quand même ce rebond pédagogique tout en étant du roman d'aventure un petit peu dans la lignée de Jules Verne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ce serait un peu prétentieux de dire que je suis d'accord avec ça, mais effectivement, moi j'adore Jules Verne. J'adore aussi Bernard Werber, qui est mon professeur d'écriture et qui me fait penser aussi à Jules Verne parce qu'il part toujours dans des aventures avec une enquête. C'est vraiment... Oui, alors on peut me rapprocher de ça, mais alors là, ça me fait vraiment plaisir.
Pour avoir lu justement Jules Verne, justement pour l'émission Mots de passe, j'ai eu une petite donc chronique sur Jules Verne, puisque c'est un livre d'école obligatoire pour les premières technologies, section technologie. Alors, vous avez parlé justement de Bernard Werber, grand écrivain français, ancien journaliste scientifique, qui est sur deux côtés, c'est-à-dire aussi bien l'aventure, un petit peu le policier, et toujours évidemment une partie scientifique. On a toujours une partie merveilleuse, il y a toujours un petit peu du merveilleux. Et c'est un auteur complet qui a toujours de la musicalité derrière aussi, puisqu'il écoute toujours de la musique dans ses ouvrages. Hein. Vous avez vu, je suis un petit peu fan aussi. Comment vous êtes arrivé à Bernard Werber ? Et vous dites aussi, c'est votre professeur d'écriture, il faut nous raconter ça.
Mais en fait, j'ai fait des masterclass, il donne des masterclass à des élèves. J'ai fait des masterclass avec lui et puis au départ, j'appréhendais un peu parce que je l'admire hein, vraiment. J'ai lu tous ses romans. D'ailleurs, je trouve un peu bizarre qu'on le mette en science-fiction, on l'a catalogué en science-fiction, alors que pour moi, ce n'est pas de la science-fiction. Et tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il disait aux élèves, on était très peu. C'est ce que je faisais déjà. Ça fait qu'en gros, j'ai rien appris, mais il m'a donné une assurance incroyable. Il m'a donné vraiment de l'assurance. Et après, il m'a donné l'autorisation d'écrire sur mes marque-pages ou même sur mon livre que j'étais son élève, en fait. J'ai attendu, je ne l'ai pas fait comme ça sans lui demander. Je lui ai demandé, il m'a donné l'autorisation. Et du coup, il m'a donné vraiment une grande confiance en moi.
Et de la légitimité peut-être aussi.
Et de la légitimité, c'est vrai que quand les gens lisent derrière le marque-page et qu'ils voient que je suis l'élève de Bernard Werber, s'ils l'aiment, parce qu'il y en a qui n'aiment pas hein, les romans comme ça, s'ils l'aiment, ils se rapprochent de moi et ils me demandent de quoi parle mon roman.
Bernard Werber, c'est arrivé comment à vous ?
En fait, c'est un ami qui m'a prêté ce livre. Je travaillais dans des villages vacances, j'étais animateur enfant d'ailleurs. Et c'est un ami qui me l'a prêté. Je partais en voyage, je partais en Asie pendant 4 mois chaque hiver. Et il m'a prêté ce roman quand je suis parti, c'était Les Fourmis. Et j'ai lu Les Fourmis, j'ai découvert Bernard Werber et depuis il ne m'a plus jamais quitté pendant mes voyages. En plus, en général, quand je pars en voyage, c'est en octobre. Cette année, je ne pourrais pas, hélas. Et à chaque fois que je pars en voyage, Bernard Werber, juste avant, sort un livre. Ses livres sortent toujours en octobre. Et il m'a suivi pendant tous mes voyages. Il a traversé l'Asie, l'Inde, le Népal, les États-Unis. Il m'a toujours suivi. J'ai toujours eu Bernard Werber avec moi dans mon sac de voyage.
Si on reprend votre roman et notre petit Maxime Petit, finalement, ça serait un petit peu le fils de Bernard Werber, non ? Parce que c'est un aventurier qui est assez intelligent, qui aime bien l'expérience et qui vit une expérience extraordinaire, on ne dira pas, mais qui part quand même d'un petit élément chimique, non ?
C'est ça, oui, d'ailleurs, ça lui ferait plaisir d'entendre ça, Bernard. Ça pourrait être son fils, ouais, un intellectuel un peu surdoué. Ça pourrait très bien être son fils. Ouais. Et plus ça va aller dans l'aventure, quand on va arriver au tome 2, plus on va s'apercevoir que finalement, ça pourrait réellement être son fils, ouais, ou en tout cas de sa lignée.
Pour mon émission, l'objectif de mon émission, c'est aussi d'amener la jeunesse vers la lecture, mais pas que, puisqu'autour de nous, on a plein de gens qui ne lisent pas. Ça apporte quelque chose, pensez-vous, la lecture ?
Pour moi, c'est essentiel. Quand j'étais jeune, je ne lisais pas. J'aimais pas ça, j'aimais pas trop l'école, en fait. Et quand j'ai commencé à lire, un de mes premiers livres a été « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » de Alexandra David-Nel. Et j'ai découvert, en fait, la lecture et les voyages à travers ce livre. Du jour où j'ai lu ce livre, j'ai plus pu m'arrêter. Et tout ce que j'ai appris, quasiment, vient des livres. Pour moi, c'est essentiel, la lecture. Et puis, c'est mieux qu'un film, parce qu'on ne nous impose pas les images. On se fait son film, quoi.
Et c'est vrai qu'on voyage beaucoup dans votre livre, et c'est très exotique à votre ouvrage aussi, puisqu'on part de Kuala Lumpur, on entend vraiment des mots, des pays, des capitales extraordinaires. J'imagine que vous voyagez beaucoup en Asie.
C'est ça, je connais vraiment bien. J'y vais moins maintenant que le tourisme de masse s'est un peu développé là-bas. Ce qui est un peu dommage pour le peuple, c'est bien pour les gens un peu plus riches et un peu pour la bourse, quoi. Mais moi, j'ai connu l'Asie en 90, en fait, mon premier voyage, c'était en 90. Et la Thaïlande était encore... Il y avait encore des îles sauvages où on habitait dans des paillotes, des endroits... Ça n'existe plus, hein, ces endroits, maintenant, c'est du béton. J'ai connu le Népal avant le grand tremblement de terre. J'ai rencontré le Dalai Lama à Dharamsala, à MacLeod Gange, lors d'une séance publique, en fait, d'une audience publique. Ça, c'était au passage à l'an 2000. Et vraiment, je connais l'Asie, je m'y sens bien. Enfin, je m'y sentais bien jusqu'après les années 2000, en fait. Après, ça s'est trop développé pour moi. Maintenant, je vais beaucoup aux États-Unis.
Les États-Unis, les écrivains américains. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez besoin un petit peu de pratiquer l'écriture. Vous ne vous sentiez pas légitime dans l'écriture. Mais si on pense à la plupart, je pense à Margaret Atwood, celle qui a écrit La Servante écarlate, et son dernier ouvrage, Les Testaments. Et elle était passée aussi sur France Inter, où justement, elle expliquait à Laura Adler qu'elle a commencé, donc elle a 84 ans maintenant, Margaret Atwood. Elle n'a jamais pris de cours d'écriture, que l'écriture lui est venue à elle de façon tout à fait naturelle. Donc toute cette génération d'écrivains ne sont jamais passés par des cours d'écriture. Vous, pourquoi avoir besoin de faire un masterclass alors que vous écriviez déjà ? Ça vous a amené quoi ? Est-ce qu'on en a besoin de ces cours d'écriture ?
En fait, j'en avais pas réellement besoin, puisque j'écris, je suis un autodidacte en fait, mais j'écris et puis ça plaît. Du coup, pour moi, c'est l'essentiel. Mais j'avais besoin déjà de rencontrer Bernard Werber. Je l'avais déjà rencontré plusieurs fois dans des salons du livre pour des dédicaces. Je le trouvais sympa et j'avais envie d'approfondir ça. Et du coup, j'ai mangé avec lui, j'ai pu le voir sous un autre angle. J'avais envie de le rencontrer, en fait, plutôt qu'apprendre. D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai rien appris. Ça m'a juste conforté. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il expliquait, certains prenaient des notes, mais je ne prenais pas de notes parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il est dans ma tête et il sait comment je fonctionne, quoi. Et je me suis dit, mais finalement, je suis auteur. Je me suis découvert.
Quand on lit Jack Kerouac sur la route, on ne se dit pas, tiens, cet auteur-là, il a pris des cours d'écriture. Il écrit de façon automatique.
Voilà, mais c'est ça. Et j'écris vraiment j'écris comme un film. Je suis comme un scénariste. Je vois mes images. En premier, je vois mes images, en fait, et je les écris. Et j'essaye de détailler pour vraiment que le lecteur visualise tout ce que j'ai dans la tête. Alors, il visualise à sa façon. Mais il est très visuel, ce roman. Et tous mes romans, d'ailleurs, sont très visuels.
Est-ce que vous avez vraiment pensé, en livre jeunesse, à vous dire « je vais adapter mon langage justement pour une population qui est beaucoup plus jeune » Est-ce que vous avez vraiment pensé à ça ?
Non. Non, puisqu'à la base, vraiment, je ne visais pas la jeunesse. Mais après, j'aime bien les écritures simples. Moi, quand je lis, en tout cas, quand je suis en vacances, après, il y a des livres compliqués qui me plaisent aussi. Mais quand je lis une histoire de l'aventure ou un policier, j'aime bien une écriture claire. C'est pour ça que j'aime bien Bernard Werber, parce qu'à part quand il se lance dans des longues tirades scientifiques, son écriture est facile. C'est vraiment fluide, c'est pas des mots compliqués qui nous apportent une petite étoile en bas pour voir ce que ça veut dire. C'est vraiment, on lit d'affilée comme un film. Et c'est ça que je voulais, en fait.
Alors, on n'a pas le droit de raconter un petit peu l'histoire, mais ces bulles de savon, ça m'intrigue un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ?
En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, Maxime, qui justement est très timide, va faire une rencontre un peu magique. C'est la petite partie magique, en fait, du livre, qui va lui permettre d'aller où il veut. Et vu qu'il est un peu trouillard, tout ça, lui, il ne va pas trop oser. Et son copain Jacob va découvrir son secret, en fait, lors d'un moment. Et il va l'embobiner à Maxime pour partir en voyage avec lui. Et là, ils vont partir tous les deux sans que les parents soient au courant, à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et et ça va pas du tout se passer comme il l'avait imaginé. Et là, l'aventure va commencer, ils vont se retrouver, il va y avoir un suspense incroyable, c'est super rythmé, ils vont se marrer, enfin c'est des ados du coup, et ils vont avoir peur, ils vont pleurer à des moments parce qu'ils ont vraiment la trouille. Et voilà, et l'aventure commence là. Je peux pas vous en dire plus vraiment sur les bulles.
On a quand même son copain, Maxime Petit, qui est Jacob. On a compris quand même qu'il y avait des cultures différentes qui vont s'échanger tout au long de votre œuvre. Est-ce que vous êtes, c'est ça, non ?
Ça, j'ai fait exprès parce que je voulais un peu, sans faire un livre sur la tolérance, ni faire du blabla, ni faire de la morale. Hein, je voulais qu'il y ait une petite part de tolérance en fait et une ouverture d'esprit. Et du coup, c'est vrai que Jacob fait partie d'une confession différente, sans être un livre religieux qui prône une religion ou qui fait du prosélytisme. Et Jacob, en même temps, je voulais le faire rigolo. C'est un peu le rigolo de l'histoire. Sans Jacob, cette histoire ne serait rien, finalement. Et sans Maxime non plus. Mais Jacob sert à l'histoire, sert à faire rire, en fait. À faire rire et à détendre, et puis à montrer que... On peut faire partie d'une religion sans autant vouloir l'imposer aux autres et même se dire oh « bah, ce coup-ci, je m'en fiche, personne ne me voit, je ne respecte pas les principes ».
Oui, c'est assez drôle, surtout le vendredi du Shabbat où finalement j'attends que ce soit la fin pour pouvoir faire n'importe quoi, enfin en dehors du Shabbat. On a aussi deux familles différentes, une famille qui a des moyens, on est sur un plan social, ou une famille qui a peu de moyens et une famille qui a pas mal de moyens. Ça aussi, on est sur cet échange. Pourquoi vous avez voulu exploiter cette partie-là ?
C'est pareil, c'était volontaire, c'était pour montrer qu'on peut avoir des parents qui sont ouvriers ou femmes de ménage et des parents architectes et on peut être très amis. Ça ne change rien, en fait, ça n'importe pas sur la vie, mais vraiment, et sur la vie de tous les jours, ça n'importe pas. On peut avoir une bande d'amis avec des médecins et puis avec des ouvriers. Et il n'y a pas de caste, en fait. Il n'y a aucune caste, on est en France, il n'y a pas de caste. Du coup, c'était pour faire un échange social entre tout le monde, quoi, entre toutes les cultures.
Il n'y a pas de caste, mais il n'y a pas de caste chez les enfants, chez les adolescents, mais après, un petit peu plus tard. C'est un peu plus difficile quand même de se mélanger, vous êtes d'accord ?
Après, c'est plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs mon choix des ados, parce que j'avais plus de liberté en fait sur les bêtises simplement qu'ils vont faire. Un adulte se retiendrait un peu, serait... C'est vrai qu'il se dirait, ouais, oh là là, c'est des médecins, c'est des bourges, parce que souvent on réagit comme ça quand on revenait d'une famille d'ouvriers. Mais je trouve ça dommage, du coup, parce qu'il y a l'échange est vraiment... L'échange et le mélange est vraiment super important. C'est ça qui fait avancer les choses.
RJH Lascols, vous êtes encore un adolescent quand même.
C'est ça, mais quelque part, on est tous des adolescents. D'ailleurs, ce livre, quand des personnes âgées m'envoient des retours, me disent qu'ils ont adoré, c'est parce qu'ils ont leur part d'adolescent en fait, qui s'est développée dans leur imagination. Dans la tête, on est toujours un peu adolescent. Après, j'ai des retenues comme un adulte, puisque j'ai 52 ans maintenant. Mais dans ma tête, je suis toujours un adolescent. J'adore découvrir des choses, je m'émerveille d'un rien.
Alors, je vous rappelle, donc, c'est RJH Lascols qui a sorti son premier tome, Les bulles de savon. C'est les voyages de Maxime Petit. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, RJH Lascols ?
Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'interview. Puis, je voudrais ajouter que... Je sais pas, j'ai envie que tout le monde se mette à lire en fait. J'ai pas écrit un livre pour que mon livre plaise, j'ai écrit un livre pour redonner le goût à la lecture aux gens et j'ai enlevé toutes les lourdeurs du livre. Des fois, moi je lis un livre qui me plaît moyen parce que c'est trop lourd, trop chargé, les chapitres sont trop longs. Et du coup, j'ai enlevé toutes les choses qui me plaisent pas et j'ai écrit un livre comme moi j'aimerais le lire et du coup, j'aimerais que ça plaise à tout le monde et que ça leur donne envie de la lecture qui pour moi est vraiment essentielle, je le redis, parce qu'on apprend tout en lisant.
Alors là, 100% d'accord avec vous, RJH Lascols, parce que c'est exactement ce que je voudrais, c'est que tout le monde se mette un peu à lire, parce que c'est des passages d'idées, on passe des idées, on passe des émotions, on passe des sentiments, et on peut revenir dessus en arrière, ça ne coûte pas grand-chose. D'ailleurs, je vous ai lu en numérique, alors que là, on est sur le livre en fait, de Roussillon, et là, vous proposez vos ouvrages en papier. Malheureusement, vous n'allez pas revenir dans la région, on pourra vous revoir, vous allez revendre, faire des promotions de votre ouvrage ou pas ?
Si, dès que la zone rouge sera passée, que les salons du livre vont se rouvrir, je serai partout en fait, je serai dans la région, même en France, je vais essayer d'aller un peu partout. Je suis invité dans pas mal de librairies, du coup je fais aussi des dédicaces en librairie. Et après, voilà, moi j'adore rencontrer les gens, les lecteurs, discuter avec eux, ils me demandent des petits trucs qu'ils ne trouveront pas sur la quatrième de couverture ou sur Internet. Ou chez les libraires même. Du coup, là, je peux leur expliquer directement mon livre.
Vous avez un site internet? Vous nous donnez votre adresse?
J'ai un site internet, alors c'est www.rjhlascols.com.
On ira. Je vous remercie beaucoup, RJH Lascols. Donc, merci à Maxime Petit, qu'il faut lire, le tome 1. Et mais alors, s'il y a un tome 1, il va y avoir un tome 2?
C'est ça, le tome 2 sort mi-novembre. La maison d'édition vient de me le confirmer. Du coup, là, il est en correction. Je vais recevoir les épreuves pour faire des retouches. Et puis, il sortira mi-novembre.
Et Walt Disney bientôt?
Alors là, ce serait mon rêve. Vraiment, ce serait mon rêve.
C'est plausible.
C'est plausible. D'ailleurs, une fois que je l'ai écrit et que j'ai commencé à le faire lire à des amis ou des gens qui adorent la lecture pour avoir leurs avis avant de l'envoyer aux maisons d'édition, j'ai commencé à m'imaginer ça, un parc d'attractions, Maxime Petit. Ce serait le rêve.
Bon, ça, c'est pour un peu plus tard, mais ça viendra. Je vous remercie. À très bientôt, parce que peut-être que vous nous présenterez le tome 2 sur RTVFM. Merci, RJH Lascols.
Merci à vous, et bien sûr que je vous présenterai le tome 2. Avec plaisir.
J'ai fini la lecture du tome Les Bulles de Savon et j'ai passé un très agréable moment. Je remercie RJH Lascols qui m'a littéralement transporté sur 3 continents tout en me rappelant que l'amitié, la curiosité et un brin de fantastique font un très bon roman et moment. Plus prosaïquement, j'ai téléchargé à un bon prix le livre de RJH Lascols, 6,40€ sur ma liseuse. Je rappelle le nom de la maison d'édition, Marathon Édition, qui est implantée à Marseille.
La chronique cas d'école.
Pas de grands changements pour les classes de première des voies générales et technologiques. Le programme national d'œuvres pour l'enseignement de français pour l'année scolaire 2020-2021 n'a pas fait de grandes révolutions, si ce n'est au niveau théâtral. Et pour ouvrir cette saison de cas d'école, et je remercie Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, nous allons marivauder. Et socialement, on diantre. Et celui qui nous offre le marivaudage, ce langage délicieusement précieux, futile mais jamais ridicule, qui s'accorde à merveille aux discours amoureux, est notre auteur français du XVIIIe siècle, Pierre Carlé de Chamblain de Marivaux. Journaliste, observateur et auteur de pièces de théâtre, vous le connaissez mieux sous sa pièce la plus connue, Le jeu de l'amour et du hasard. Ce que l'on connaît moins, c'est sa critique sociale. Et quelle surprise, quelle modernité, quelle pédagogie nous apporte sa pièce L'île aux esclaves. C'est un cadeau. En quelques pages, seulement un acte et quelques scènes, une lecture de moins d'une heure, une comédie en prose, vous allez débarquer sur une île grecque. La mer, quelques maisons et des arbres. Oui, parce qu'on n'oublie pas que le style de l'époque, en 1725 plus précisément, il est de bon ton de situer l'histoire dans l'Antiquité. Un maître et son esclave échouent et découvrent une île aux lois salutaires. 5 personnages: Iphicrate, Arlequin, Euphrosyne, Cléantis et Trivelin. Des prénoms que l'on pourrait remplacer par Florian, Valérie, Sonia, Alain et Willy. Et pour expliquer les règles des insulaires, Christian Gouet nous fait la lecture de la scène 2 où Trivelin, un habitant de l'île aux esclaves, détaille la loi première.
Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent furent d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs, et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire, remerciez le sort qui vous conduit ici, il vous remet en nos mains, dures, injustes et superbes. Vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie.
La suite, à vous de la découvrir. Comment cela finira-t-il ? Qui donc avez-vous envie d'envoyer sur cette île ? Envoyez votre réponse sur le site de rtvfm.net. Un petit rappel historique, on est 50 ans avant la Révolution française. Et la Révolution française n'a pas usé d'autant de pédagogie pour éliminer l'aristocratie. Ou alors, l'aristocratie a été sourde à toute pédagogie. Vous avez 2 heures pour me rendre la copie. Petite précision, ce travail de l'œuvre est au programme des premières technologiques. Au prochain numéro de Cas d'école, j'aborderai une pièce contemporaine.
Un livre, une BD, la pièce du mois.
Dans un arbre à lyre de la ville de Carpentras, j'ai trouvé cet été Sa Majesté des Mouches, un livre de William Golding, prix Nobel de littérature en 1983. William Golding, mobilisé dans la marine britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, a vécu l'effroi du débarquement sur les côtes normandes. Survivant, il devient professeur d'anglais et à 51 ans, il se retire à la campagne pour se consacrer à l'écriture. Et c'est sans nul doute que son expérience de vie a permis à William Golding d'écrire ce magnifique roman d'aventure et d'apprentissage qui n'est nullement réservé aux enfants. Il est la preuve que tout adulte a sa part de responsabilité sur le devenir de l'enfant. Tiens, encore une île déserte où les naufragés sont des enfants, livrés à eux-mêmes, ou d'un paradis perdu, les stigmates de l'humanité transforment en enfer. Plus qu'un roman d'aventure, c'est une réflexion, une mise en abîme de l'humanité tout entière. 6 ans plus tôt la parution de Sa Majesté des Mouches, George Orwell publie 1984. Il rivalise dans la démonstration de l'horreur de la société. C'est un roman phare, incontournable, qui a eu d'innombrables déclinaisons théâtrales, musicales, cinématographiques et en BD. Je vous encourage à sa lecture. Ça ne vous laissera pas indifférent.
L'actualité littéraire.
Petit coup de projecteur sur la médiathèque Michel Brusset de Malocène, qui propose une lecture mise en éclat par la compagnie Mahaloum, Petit pays de Gaël Faye. Rendez-vous samedi 10 octobre à 18h. Prenez vos dispositions et contactez la médiathèque Michel Brusset pour réserver vos places au 04 90 65 27 20. Le comédien Rémi Pradier de sa belle voix fera la lecture et Wengoni, la guitare traditionnelle malienne, le musicien Yanni Fola. De quoi supporter le changement de saison. Pour les curieux de la lecture, le Salon du Livre d'Orange, l'Antre des Livres, le samedi 10 et le dimanche 11 octobre à Orange, où vous retrouverez la maison d'édition Marathon et un de ses auteurs, R.J.H. Lascols, qui pourra vous dédicacer son livre « Les voyages de Maxime Petit, tome 1 » et en avant-première le tome 2. On y court. Retrouvez les informations sur le site www.lantredeslivres.com. Et c'est la fin du premier épisode de cette deuxième saison. C'est plus court, plus intense, et vous pouvez toujours retrouver le podcast sur le site www.rtvfm.net, émission mot de passe. La bande son qui accompagne cette saison 2, je la dois à Eric Truffat et son album In Between, qui, à mon avis, satisfait grandement notre animateur Dominique et son émission Jazz de cœur. À vos lectures. Ciao.